Chapitre 22. Les pâturages des plateaux texans étaient luxuriants lorsque Jane fêta ses 28 ans ce printemps-là. L'horizon était si loin, le ciel si vaste, qu'elle avait l'impression de voguer sur un océan d'herbe verte, sans savoir quelle destination l'attendait. Ses beaux-parents, Hansel et Claire Hawke, avaient pu quitter leur refuge et rentrer tranquillement chez eux à la suite des événements survenus à Phoenix. Jane avait prévu de passer dans leur ranch le temps qu'il faudrait, en attendant que le monde se fasse à l'idée qu'elle n'aspirait nullement à être adorée. Les employés du ranch et les habitants du comté auprès de qui Nick avait grandi veillaient à la traiter ainsi qu'ils l'avaient toujours fait, c'est-à-dire comme une simple proche, et elle leur en était reconnaissante. Elle avait accepté de s'expliquer lors d'une interview télévisée d'une heure, avant de se retirer chez Hansel et Claire, afin de montrer au reste du monde que son unique envie était de vivre normalement en s'efforçant d'être heureuse à l'écart des projecteurs. Elle avait refusé les offres généreuses des éditeurs soucieux de recueillir ses souvenirs. Quant à Thomas Buckle, le jeune réalisateur qui avait assisté à la mort de Wainwright Hollister, il aurait aimé tirer un film de son histoire. Elle lui avait conseillé de se pencher plutôt sur le sort de Sanjay et Tanuja Shukla, les cousins de Vikram dont les noms figuraient sur la liste Hamlet et que les Arcadiens avaient poussé au suicide au prétexte que leurs écrits étaient subversifs. Jane téléphonait à Vikram deux fois par jour. Le soir même de ce dimanche décisif à Phoenix, l'informaticien avait donné l'ordre aux 16 910 modifiés d'oublier à jamais l'existence de la chambre des murmures, afin d'éviter que quelqu'un puisse un jour se servir d'eux. À la suite de quoi, il avait accepté de prendre la direction de l'agence gouvernementale chargée d'aider tous ceux qui avaient reçu un implant cérébral. Il s'agissait de veiller à ce que les mécanismes de contrôle ne provoquent pas un jour des cancers ou d'autres maladies chez les intéressés, mais aussi de les aider financièrement ou encore d'indemniser les familles des victimes de la liste Hamlet. Les raies choses, comme les femmes transformées en objets sexuels dans les quatre bordels réservés aux Arcadiens, dont la mémoire et la personnalité avaient été effacées, étaient désormais pupilles de la nation, puisqu'il était impossible de les rendre à une vie normale. Les milliards des Arcadiens qui attendaient leur procès, lorsqu'ils ne s'étaient pas suicidés, servaient en partie à financer ces projets. Il arrivait à Jane d'appeler Vikram Choti Batasha, tout comme il lui arrivait d'appeler la jeune femme Benji. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu dire si l'amour fraternel qui les liait laisserait un jour la place à des sentiments d'un autre ordre. Mais ils ne s'en souciaient guère, heureux de laisser la Providence décider pour eux le moment venu. Bernie Rigovitz et Cornell Jasperson avaient acheté ensemble une maison à Scottsdale et formaient un couple pour le moins atypique. Jane les appelait souvent, et il lui parlait à mots couverts du projet mystérieux sur lequel il travaillait. Luther Tillman, le shérif du Minnesota avec lequel elle avait mené une partie de sa croisade et qui pensait avoir perdu à jamais sa femme et l'une de ses deux filles lorsqu'elles avaient reçu un implant cérébral, avait promis à Jane de venir lui rendre visite au Texas avec les siens à la fin de l'été. Dougal Traherne avait également prévu de faire le déplacement en compagnie de Charlène Dumont. Une belle façon de fêter la victoire et de célébrer la liberté, mais aussi de penser à tous ceux, amis ou inconnus, qui avaient été victimes de la révolution ratée. Les Arcadiens qui avaient quitté les États-Unis n'avaient trouvé asile nulle part, sinon dans une poignée de pays totalitaires où ils connaîtraient un sort peu enviable, le gouvernement fédéral s'appliquant à traquer jusqu'au dernier dollar leurs biens dissimulés à l'étranger. L'après-midi de ce jour glorieux à Phoenix, Arshad, le cousin de Vikram, avait transmis aux principaux médias des États-Unis et du monde entier, mais aussi à Wikileaks, les fichiers de la fondation Diedrich Deodatus, les dossiers de Bertolt Schenek, ainsi que les DVD que Jane avait réussi à se procurer à Lake Tahoe. Il serait désormais impossible de censurer la vérité. Jane n'avait pas été étonnée d'apprendre que son père, le pianiste de renommée internationale Martin Duroc, qui avait camouflé le meurtre de sa mère en accident, faisait partie du complot arcadien. Il se trouvait à présent en prison et attendait son procès. Presque chaque jour, Jane s'asseyait au piano et jouait de tout, des œuvres de Chopin comme des chansons de Fats Domino. La musique, comme toujours, l'aidait à cicatriser ses plaies. Travis, à l'image de son père dont il possédait le visage, le caractère et la générosité, avait bien résisté aux épreuves qu'il avait traversées. Anna, sa ponette, vivait désormais sur le ranch de ses grands-parents, et Hansel poursuivait quotidiennement son initiation aux joies de l'équitation. Le cheval, les deux bergers allemands et la présence constante de sa mère constituaient tout ce dont avait besoin le petit garçon pour se reconstruire, lui-même figurant pour Jane le meilleur des antidotes. Ils dormaient dans la même chambre, et elle n'acceptait de le confier à personne en dehors de son grand-père, tout en sachant que le jour viendrait où il prendrait son envol. La présence de Jane sur les lieux où avait grandi Nick aurait pu la pousser à s'enfermer dans la nostalgie, mais elle résistait à cette tentation. La science prétend que le temps ralentit aux confins de l'univers jusqu'à se replier sur lui-même, ce qui la laissait espérer que l'histoire puisse se répéter à l'infini. Si tel était le cas, il existait forcément dans ce continuum un carrefour où viendraient se rejoindre la fin et le début de ce cycle temporel, où le passé redeviendrait présent, où un mari et une femme pourraient s'embrasser à l'infini, où un père étreindrait à jamais son enfant, où la mort accepterait sa défaite. Jane n'éprouvait pas le besoin de repenser constamment aux années passées avec Nick, tout simplement parce qu'elle les portait déjà en elle. Son précieux passé faisait tout autant partie de son être que son avenir radieux. Vous venez d'écouter « Fenêtre sur la peur » de Dean Koontz, traduit de l'américain par Sébastien Danchin, lu par Pascal Chemin, une production Audible Studio.